Vous écoutez France Culture.
Talmudique. Une émission de Marc-Alain Wachnin. Rabbin Rivon Krigier, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai reçu dans une précédente émission, le 20 octobre dernier, et nous avions évoqué les amitiés judéo-chrétiennes et le prix que vous aviez reçu dans le cadre de cette importante institution. Nous avions terminé en prenant date pour évoquer ensemble la lecture juive des évangiles, c'est-à-dire le fait que certains rabbins, comme vous, et des intellectuels juifs, souvent des universitaires, proposent une lecture juive des évangiles. Que faut-il entendre, Rabbin Krigier, par cette expression ?
Eh bien, il faut entendre que pendant des siècles, les écritures des uns et des autres n'étaient pas lues ou n'étaient lues qu'à travers la défiance, voire la désinformation, et que depuis quelques 60 ans, un processus authentique de lecture, par les moyens notamment universitaires et les méthodes universitaires, on s'intéresse au sens des textes et on les révisite avec un enjeu à la fois historique, comprendre le judaïsme au temps de Jésus, pour les chrétiens mieux comprendre leurs propres écrits à travers les connaissances et les références juives, et puis un enjeu théologique capital, puisque on sait que ces écritures ont fait l'objet de tensions et de combativité, d'antagonisme entre judaïsme et christianisme.
C'est-à-dire, vous voulez dire que la lecture juive des écritures chrétiennes permet par cette compréhension un rapprochement dans l'amitié ou en tout cas dans la non-hostilité des juifs et des chrétiens.
Oui, et c'est d'ailleurs un des effets les plus remarquables, les plus étonnants. C'est les chrétiens eux-mêmes qui ont commencé à relire leurs propres écritures et se rendre compte que l'ensemble du Nouveau Testament et même des évangiles ne constituait pas un texte compact avec une seule et même idéologie que par exemple le portrait que fait le livre des Actes des apôtres, par exemple, dans le Nouveau Testament, est un portrait plus bienveillant envers le judaïsme que ne peut l'être l'évangile de Matthieu, par exemple, qui pourtant, Matthieu, c'est certainement un juif qui l'écrit. Et donc, on a pris du recul, on s'est rendu compte que le Nouveau Testament comportait différentes strates. Et en ce qui concerne l'apôtre Paul, n'oublions pas qu'il est le tenant d'une grande partie des écritures du Nouveau Testament, c'est-à-dire une grande partie des épîtres, on s'est rendu compte qu'il y avait eu toute une lecture très tendancieuse de Paul qui s'était faite à travers les âges. Et les chrétiens ont compris qu'il fallait revisiter cela. Et puis nous, juifs, nous faisons le même travail, nous essayons de voir, d'évaluer cela et de porter un avis.
C'est-à-dire qu'on retrouve peut-être des proximités entre des textes du Talmud, du Midrash et des textes de la tradition des évangiles.
Alors ça, c'est quelque chose de pratiquement jubilatoire, de se rendre compte à quel point Jésus est imprégné de judaïsme. C'est une évidence, Jésus est juif, mais découvrir à travers ses paraboles, ses figures, combien très souvent par allusion il cite le texte biblique, comment Paul lui-même est imprégné de judaïsme. Il a étudié au pied du rabbin Gamliel, en tout cas c'est ce qui est affirmé dans les Actes des apôtres. Donc oui, clairement, et je répète, les universitaires juifs voient aujourd'hui dans les évangiles une source capitale pour comprendre le contexte du judaïsme de ce temps. Il y a un apport, je le répète, à la fois historique et spirituel. On peut faire, si vous voulez, pour dire les choses succinctement, on peut dire qu'il y a trois pôles, en réalité, puisqu'on va peut-être se concentrer sur Paul de Tarse.
Oui.
Il y a un premier pôle, qui est le pôle historique, ce qu'il a vraiment dit, ce qu'il a vraiment écrit, c'est celui qu'on essaie tout le temps de redécouvrir et de comprendre. Mais il y a eu, à travers l'histoire, je le disais il y a un instant, ce qu'on peut appeler le polynisme, c'est-à-dire toute cette tradition très théologique et à travers un enseignement de dénégation du judaïsme, qu'on appelle la théologie de la substitution.
C'est-à-dire exactement
C'est-à-dire qu'on a considéré, à partir du deuxième siècle, que finalement le vrai Israël, c'était désormais le peuple chrétien, et que le peuple juif était un peuple déchu. Mais la substitution, c'est aussi la substitution de la Torah. C'est-à-dire que la véritable et nouvelle parole de Dieu, le Nouveau Testament, c'est désormais cette parole du Christ et ce qu'en a dit l'apôtre Paul, tandis que l'Ancien Testament était relégué à une sorte de paléo-histoire ou préhistoire du christianisme. Donc c'était une double dénégation avec des grandes figures comme Ignace d'Antioche, Marcion, mais aussi un père de l'Église aussi célèbre que saint Augustin, qui a des propos extrêmement durs. Hein. Et puis le troisième Paul, hein, Paul dans les deux sens, P-A-U-L, P-O-L-E, le troisième Paul, c'est le nouveau Paul. Pas celui qu'on invente, mais celui qu'on essaye de reconstruire après Vatican II, après le traumatisme de la Shoah, et qui est une relecture à partir justement d'une meilleure compréhension du contexte historique, une meilleure compréhension notamment de la part des chrétiens de ce qu'est vraiment le judaïsme rabbinique. Et cela donne des fruits formidables, des pistes extraordinaires. On comprend que Paul, permettez-moi l'expression, n'a pas été aussi paulinien que ce qu'on a souvent et longtemps dit.
Alors, on va peut-être approfondir ce nouveau visage de Paul, ce troisième Paul, si vous voulez. Mais en vous écoutant, je pensais à cette idée que j'ai souvent, et vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que à l'époque de Jésus, le judaïsme n'est pas encore définitif dans sa construction intellectuelle, dans ses textes. Il est encore en train de se chercher et toutes les interprétations sont ouvertes. Et j'ai toujours eu l'impression que, au même moment, sont nées deux sortes de midrash, deux sortes de midrashim, deux sortes d'interprétations. L'interprétation pharisienne qui a donné la Mishnah et le Talmud, et l'interprétation de Jésus et de ses élèves, et de ses élèves d'élèves, qui a donné le christianisme. Comme si, et comme dans le judaïsme lui-même, la pluralité des interprétations est possible, c'est comme si le judaïsme classique donnait déjà une sorte de légitimité à la possibilité d'avoir pensé le christianisme comme légitime par rapport au judaïsme.
Ben oui, je crois que on peut dire que cette culture de discussion qu'on retrouve dans le Talmud rend possible aujourd'hui pour les Juifs l'idée qui était déjà très très ancienne, que le monothéisme, l'idée du monothéisme pourrait émerger, aller vers les nations, et que forcément, ces nations l'entendraient, l'interpréteraient à leur manière, comme un artiste interprète une œuvre. Et donc, dans un sens, oui, je crois que c'est un élément important qui est encore à construire sur un plan intellectuel et théologique. On en vient à comprendre que le christianisme peut être considéré comme un rejeton digne du judaïsme, pour autant, bien sûr, que l'on dépasse tout un ensemble d'antagonismes et de préjugés dont on a déjà eu l'occasion de parler. Oui, mais ça devient possible, cette idée que le christianisme, et en quelque façon aussi d'ailleurs l'islam et d'autres spiritualités, peuvent être apparentés et peuvent trouver des liens de filiation.
Cela rejoint un petit peu ce qu'on avait évoqué dans notre précédente émission du mois d'octobre, lorsque nous avions parlé de la théologie des deux voies. C'est-à-dire la possibilité pour atteindre la vérité de plusieurs voies, et toutes sont légitimes et toutes peuvent se reconnaître. Mais revenons, si vous le voulez bien, à ce personnage et cette théologie de Paul, dont vous nous proposez une réévaluation. Vous insistez sur deux thèmes qui vous paraissent particulièrement essentiels, la greffe et l'opposition classique de la grâce et des œuvres quant à la question du salut.
On va essayer de présenter les choses de manière simple, et puis ceux qui voudront approfondir, ils prendront le temps de le faire. Parlons effectivement de cette notion de greffe. Qu'est-ce que ça vient faire? Eh bien, écoutez, tout simplement, il y a un texte capital dans les épîtres de Paul, qui s'appelle l'épître aux Romains, et notamment un chapitre capital, mais ce n'est pas le seul, ils sont tous importants, mais celui-là a fait histoire, le chapitre 11, dans lequel, dans une espèce de vision fulgurante, Paul envisage la fin des temps. Et il imagine un olivier dont on a retranché les branches. Et l'olivier, le tronc de cet olivier, c'est tout l'héritage biblique de la tradition juive. Les branches retranchées, ce sont les rabbins, ceux qui se sont fourvoyés, qui n'ont pas compris, selon lui, l'enseignement dont les Juifs étaient véritablement dépositaires. Et comme ils n'ont pas compris, c'est-à-dire en fait qu'ils ont rejeté Jésus, selon son interprétation, eh bien, des païens, des gens d'autres nations, que ce sont des branches qui se sont greffées sur l'ancien tronc d'olivier, et ce sont eux qui ont pris la place, on voit déjà l'idée de substitution, des autres branches. Ce que Paul dit, c'est que tout Israël sera sauvé dans l'avenir. C'est-à-dire qu'à un moment, il va y avoir une réconciliation et les branches qui avaient été retranchées vont pouvoir être greffées sur cet olivier. Et là, on a une image de réconciliation. Bien sûr, on a de bonnes raisons de penser que pour Paul, cela impliquera que les Juifs reconnaîtront Jésus. Bon, chacun, bien sûr, dans ses visions ultimes de réconciliation, a toujours l'impression que la réconciliation se passera quand l'autre admettra ses torts. Et on connaît cet aspect-là universel. Mais il n'en demeure pas moins que cette vision de réconciliation a été capitale pour le nouveau travail qui est fait sur Paul, c'est-à-dire de se dire, au fond, comment cette greffe est-elle possible, comment elle peut être engagée, c'est-à-dire quel type de dialogue doit être mené. Et ce qui est intéressant et essentiel, c'est que dans les sources juives, on découvre depuis l'époque biblique et ensuite talmudique cette notion de greffe. Chez les prophètes, il y a déjà cette idée de greffe du royaume d'Israël et du royaume de Juda, mais plus fondamentalement dans le Talmud, il est question d'un greffon de deux personnages que sont Ruth et Naama, une Moabite, une Ammonite, sur le tronc d'Israël, et avec un jeu de mots sur le terme du verset de la Genèse, Venivrechu vecha kol mishpechot Adama, par toi, est-il dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, seront bénies toutes les familles de la terre. Et le Talmud interprète Nivrechu seront bénies, au deuxième sens, c'est-à-dire selon l'hébreu mishnik, sur toi seront greffées toutes les familles de la terre. Et l'exemple donné dans le Talmud, c'est Ruth qui s'est adjointe au peuple d'Israël, et Naama, l'Ammonite. Mais on voit bien qu'elles servent de prototype, et on voit ça chez les commentateurs médiévaux, cette vision que dans les temps ultimes, les autres religions, et à cette époque c'est clairement le christianisme et l'islam, comprendront leurs erreurs, on est dans la même vision un peu triomphaliste, et viendront se greffer sur la souche d'Israël. Du coup, cette image du retranchement et de la greffe devient la figure par excellence à la fois du drame de la dispute qui s'est passée à travers les siècles, mais aussi la manière d'envisager aujourd'hui la réconciliation à travers le dialogue.
Si je comprends bien, c'est que le salut, dans les textes de Paul que vous venez de lire et la lecture du Talmud que vous venez d'en faire, pense quelque chose de nouveau, ne peut pas être le lieu de quelque chose qui concerne seulement un seul peuple. Cela concerne tous les peuples, la réconciliation des peuples, et comme si, je crois que c'est l'expression que vous utilisez dans votre article, que nous sommes dans un binôme, et non pas dans une sorte de théorie du salut qui serait pour un seul peuple de manière, je dirais, presque égoïste.
Alors, très longtemps, le discours chrétien, on peut encore retrouver ça chez Henri Bergson, même quand il parle de la morale des religions respectives, judaïsme et christianisme, très longtemps, le stéréotype chrétien était de dire, au fond, les Juifs ne s'intéressent que à leur propre salut. Nous sommes la dimension universelle, catholique d'ailleurs veut dire universelle, et que c'est eux qui sont porteurs de cette universalité. Or, les Juifs, en étant eux-mêmes premiers héritiers des écritures bibliques, ont été habitués que le coup d'envoi de la civilisation juive, hébraïque, c'était justement cette parole énoncée à Abraham qui comporte « Par toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Donc c'est quelque chose qui est déjà dans la Torah. Parce que les chrétiens disaient « Oui, c'est dans la Bible, mais surtout chez les prophètes, la Torah s'intéresse qu'au peuple juif ». Non, on l'a ici, et j'en ai évoqué ici un commentaire tout à l'heure, qui montre que c'est une espèce de feuille de route qui est clairement énoncé que c'est fait partie fondamentalement de la vocation d'Abraham et par suite d'Israël et des prophètes. Et chez les prophètes, c'est très évident, cette idée que les peuples à l'unisson reconnaissent le même Dieu, c'est dans la liturgie juive, c'est très très présente. Simplement, dans le programme, c'est que c'est quelque chose qui doit se dérouler, se réaliser à travers l'histoire, c'est pas quelque chose qui vient de manière impromptue. Mais vous avez soulevé un autre élément qui me paraît très très capital, c'est qu'on a très souvent et longtemps dit qu'il y avait une espèce d'asymétrie fondamentale dans le dialogue judo-chrétien, les chrétiens qui doivent tout au judaïsme puisqu'ils sont les héritiers des textes. Or, quand on envisage la vision messianique juive, alors c'est vrai que l'Église a besoin d'être reconnue par la synagogue mère comme sa digne héritière, sinon elle se sent en rupture avec elle-même et avec ses écritures, mais la synagogue, le peuple juif, a besoin de voir confirmer son statut nourricier en rappelant à l'Église qu'elle a été et devrait rester son rejeton, sa suite. Et c'est là que la greffe se produit. Cette greffe de filiation et de synergie. Et c'est à ce moment-là que le judaïsme retrouve la dimension universelle qu'il n'a pas pu assumer à travers l'histoire. Il y a eu comme une sorte de rupture historique, comme le dit d'ailleurs très bien Rosenzweig, entre cette dimension particulariste d'Israël, cette vocation particulière et ce rôle assuré par l'Église. Eh bien, en fait, on se rend compte que les deux dimensions doivent renouer pour réaliser le rêve messianique et inclure d'ailleurs aussi d'autres religions.
On est dans une phase encore au-delà de ce que décrit Paul ou le Talmud, dans le fait qu'il ne s'agit pas simplement d'une religion qui va venir se greffer sur l'autre pour la reconnaître, comme vous l'avez dit, mais peut-être aujourd'hui, penser la possibilité de, non pas de se greffer dans le sens de reconnaître l'autre, mais d'agir ensemble.
Oui, alors reprenons l'image de la greffe. La souche fondamentale, c'est l'héritage biblique. Les branches, c'est le développement du judaïsme et c'est d'autre part le développement du christianisme. Donc reconnaître la même souche du point de vue chrétien, ça ne veut pas dire nécessairement devenir juif ou adopter le judaïsme rabbinique. Comme pour les rabbins, ça ne signifie pas nécessairement admettre les dogmes et les croyances des chrétiens, mais reconnaître par la souche commune qu'elles sont familières, héritières les unes des autres, qu'il y a eu aussi beaucoup d'interactions en réalité entre les différentes branches et qu'elles peuvent se nourrir de la même sève. Voilà ce qui est capital.
De la même sève, c'est-à-dire aussi des mêmes textes, c'est-à-dire d'un retour au texte. Et peut-être que cela explique ce que vous disiez au début de cette émission, c'est-à-dire que beaucoup de théologiens chrétiens ne sont plus seulement dans l'exégèse des textes du christianisme, mais sont eux-mêmes intéressés par l'exégèse des textes du Talmud, du Midrash, enfin de l'ensemble des textes de l'exégèse juive.
Voilà. Alors parfois ça fonctionne très très bien parce qu'il y a des convergences de vues très très évidentes, des accointances très 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 claires. Et parfois il y a ce que Paul lui-même nomme dans une de ses épîtres, la pierre d'achoppement. Et c'est là qu'on va peut-être rentrer dans le vif du sujet théologique qui est un sujet pointu, qui est difficile mais qui est important. C'est que à travers la confrontation, on se rend compte aussi du clash, de l'opposition des idées. Là, les choses sont beaucoup plus difficiles. Comment on parvient à lever ce qui apparaît comme des antagonismes inéluctables? Et vous évoquiez tout à l'heure la fameuse question de la théologie de la grâce. Effectivement, pendant très 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 longtemps, le discours chrétien consiste à dire la Torah n'est pas une voie légitime de salut parce qu'elle propose aux humains qui adhèrent au judaïsme, à se réaliser à travers un certain nombre de commandements qu'on appelle les œuvres. Or, c'est pure vanité, c'est pure prétention. Seule la grâce du Christ apporte le salut. Et sur cette opposition entre le mérite et la grâce, se sont heurtées les deux religions à travers les âges et se sont renvoyées l'une et à l'autre des images très stéréotypées. On est encore aujourd'hui dans le discours théologique, on ne l'a pas complètement dépassé, sur cette espèce de démarquage et cette espèce de frontière infranchissable. Et les théologiens tentent de réfléchir comment dépasser cet enjeu.
Et donc ça, c'est l'objet de votre recherche dans cet article qui s'intitule « Paul et Israël, du retranchement à la greffe ». Et donc vous découvrez la possibilité de sortir de cette impasse, comme vous dites, impasse existentielle, où c'est de Paul, à savoir que c'est soit la grâce, soit les œuvres, mais ça ne peut pas être les deux à la fois.
Pour les chrétiens, et c'est quelque chose qui aujourd'hui encore est indépassable pour eux, il n'y a de salut qu'à travers la médiation du Christ. C'est ce que le judaïsme n'admet pas. Le judaïsme peut reconnaître dans Jésus un personnage intéressant,
un rabbin
avec une inspiration fulgurante, et peut reconnaître même beaucoup d'accointances dans son enseignement. Elle ne lui reconnaît pas sa qualité messianique, mais le judaïsme lui-même attend le Messie comme les chrétiens attendent le retour du Messie. Donc, de ce point de vue-là, il y a convergence.
Comme dit Edmond Flegg, si vous le permettez, quelque chose qui est très joli, ils disent nous attendons le Messie parce qu'il n'est pas venu, les chrétiens l'attendent parce qu'il va revenir, et ils forgent cette expression qui est très belle, nous de l'espérance. C'est-à-dire qu'en fait, on est toutes les deux communautés en train d'attendre et d'espérer. Mais excusez-moi, je vous ai coupé.
Non, mais vous avez parfaitement raison. Sauf que pour eux, cela signifie que puisqu'il y a eu la venue du Christ, il y a une sorte d'abolition, en tout cas très longtemps ça a été compris comme ça, abolition de la pertinence de la loi. La Torah est caduque, et non seulement elle est caduque, et ça c'est tout le problème, c'est que chez Paul c'est explicite, la Torah elle-même a fini par faire obstacle au salut. Elle est quelque chose qui empêche la spiritualité de s'épanouir. Et ça, c'est un stéréotype qui reste encore très présent dans les écritures les plus récentes de l'Église. C'est que les Juifs sont sur une fausse piste. Et ça, c'est un des problèmes à dépasser. Et on est sur une fausse piste, notamment parce qu'on est incapable, selon cette vision, puisqu'on est dans la notion de mérite, donc la notion de calcul et d'accumulation, incapable de reconnaître toute la dimension du pardon et de la grâce. Et les premiers progrès, justement, en la matière, sont venus de chrétiens eux-mêmes. Je pense à, par exemple, Jean-Paul Sanders, un protestant du début du XXe siècle. Il s'est rendu compte que Paul n'était pas aussi radicalement anti-juif qu'on le prétend, et qu'il y avait bien une théologie du pardon dans le judaïsme. Bon, pour ceux qui sont juifs, qui vont à la synagogue, ils savent ces choses-là. Mais pour les chrétiens, le Dieu de l'Ancien Testament, c'était le Dieu des Juifs, le Dieu vengeur, le Dieu calculateur. Et tout à coup, les chrétiens se sont rendus compte, ce que Sanders s'appelait le nomisme de l'Alliance, il y a bien une normativité, une exigence, mais il y a tout un dispositif pour permettre aux humains de s'amender, pour se dépasser, ce qu'on appelle chez nous la teshuva, et que c'est quelque chose d'inhérent au judaïsme, et qu'il fallait reconnaître que Jésus n'était pas venu apporter un élément neuf en insistant sur l'idée de pardon. Il avait simplement poussé les choses dans sa radicalité, mais que les idées fondamentales existaient. Lorsqu'il dit notamment que le peuple d'Israël reste élu, et dépositaire par les bénédictions qui ont été apportées au patriarche. Ça, c'est un élément très très important par lequel l'Église a reconnu que les promesses faites à Israël n'ont jamais été remises en cause. Et tout à coup, on se rend compte que Paul n'est pas aussi profondément anti-juif. Il a cette nouvelle conviction dans le Christ qui naît en lui et qui bouleverse sa propre existence. Mais il semble admettre que la spiritualité juive puisse se maintenir, que les usages juifs puissent se maintenir. Son rêve serait que les Juifs admettent Jésus, mais il lui-même voit dans la loi quelque chose qui apporte aussi des éléments positifs. Voilà ce qu'était de leur côté la révolution.
C'est-à-dire que d'une certaine manière, pendant des siècles, on a opposé judaïsme et christianisme. D'un côté, dans le christianisme, une religion de l'amour, et dans le judaïsme, une religion de la loi. Et on voyait s'opposer de manière radicale l'amour contre la loi, ou la grâce contre les œuvres, contre les mitzvot, on dirait en hébreu. Et votre relecture de Paul, ce que vous appelez le troisième pôle, cette vision du troisième pôle, c'est de dire qu'en fait, les religions, c'est votre expression, ne peuvent pas être unijambistes. Il faut, pour pouvoir avancer, pour pouvoir marcher, il faut les deux valeurs. À la fois, pour le judaïsme, là, bien évidemment, la loi, on ne peut pas construire une société sans loi. Mais en même temps, le judaïsme est éminemment imprégné d'amour. Et vous montrez d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ça a toujours été dans les textes. C'est-à-dire que quand on a dit que le judaïsme, c'était la loi contre l'amour, c'était déjà une manière, je dirais, erronée de lire les textes juifs, parce que les textes juifs ont toujours été dans l'équilibre de la loi et de l'amour. Mais la nouveauté, c'est de dire aussi que le christianisme, que l'on comprenait comme amour, pardon et grâce, est en fait aussi même d'après ce troisième pôle, une religion qui ne peut pas faire l'économie de la loi, parce que qu'est-ce que c'est qu'une société ou une religion où il n'y aurait qu'amour, il n'y aurait pas de loi. Et donc c'est ce rééquilibrage que vous faites dans cette lecture, relecture de Paul.
Alors je vais redire les choses un petit peu autrement. Les juifs et chrétiens, à mon sens, sont eux-mêmes tombés dans la caricature des dénégations qui se sont portées les uns aux autres. Il y a eu des courants très clairs, je ne vais pas les nommer, dans le sein du christianisme, qui ont dit la grâce seule et uniquement, et que toute prétention de donner une signification aux œuvres était chimérique et relevait de l'ancienne loi qui était caduque et dépassée définitivement par le Christ. Donc il y a bien eu une théologie de la grâce, encore très très présente, et il y a aussi, chez les Juifs, des personnes qui s'enfoncent gracieusement dans ce stéréotype de la loi seulement, ce que Avraham Yoshua Heschel appelait le panhalachisme, où seule la précision du geste compte, c'est la haute technologie du judaïsme, que penser, que croire, ce sont des choses accessoires. Et ce stéréotype que on n'est sauvé uniquement que par le nombre d'actes ou la série des actes qu'on accomplit minutieusement, c'est une idéologie qu'on retrouve aussi à l'intérieur du judaïsme. Mais vous avez raison de souligner que quand on voit l'ensemble des sources traditionnelles, tant chez Paul ou dans les écrits chrétiens que dans les écrits juifs, on se rend compte que chez les juifs, effectivement, il y a une reconnaissance pour cette notion de grâce. L'homme n'a pas cette espèce de jactance, de prétention qu'il peut sauver le monde par ses propres actes. Il est conscient de sa faiblesse, il est conscient de ses erreurs. Il sait que le salut n'est possible que dans cette synergie avec le divin. Et du côté chrétien, on peut relire Paul, par exemple, je pense à l'Épître aux Galates, où il dit que la vraie foi consiste à opérer par la charité. C'est-à-dire, eh bien, quand il dit la vraie foi est opérée par la charité, on n'est plus dans la foi en le Christ, mais dans la foi qui s'exprime par des actes de gratitude, des actes de bonté, et que c'est l'expression de la foi. Donc on est dans une sorte de loi de foi, c'est d'ailleurs l'expression qu'il utilise dans l'Épître aux Romains, ou foi active, qui sort de ce stéréotype selon lequel, pour Paul, il n'y aurait eu que la grâce comme moyen du salut. Mmh. Et si vous le permettez, citer un texte juif, nous avons la fameuse parole dans le Talmud, dans le traité Souka et Kiddushin, de Rabbi Shimon ben Lakish, qui dit ceci: « Chaque jour, le mauvais penchant de l'homme prend le dessus sur lui et cherche à le faire mourir. » Et il cite un verset: « Si Dieu ne lui venait en aide, il ne pourrait le vaincre. Ainsi qu'il est écrit, l'Éternel ne l'abandonnera pas entre ses mains, ni ne l'accablera au jugement. » Ça, c'est un texte tout à fait significatif qui dit que l'homme, à lui seul, n'obtient pas le salut. Il a besoin de la Torah, il a besoin de se spiritualiser. Et la Torah est perçue comme un instrument d'édification. Sans la discipline et l'engagement des mitzvot, effectivement, l'homme n'est pas en mesure de lutter contre son mauvais penchant. Et puis il y a aussi l'aide divine, quelque chose de plus mystérieux, mais que le judaïsme reconnaît comme un élément capital, comme une composante capitale du salut. Donc quand on y réfléchit, quand on a ces lectures respectives, on voit que les deux traditions peuvent se rencontrer sur l'idée qu'une forme d'acte, d'action, d'une part, lié au mérite et une forme de grâce, quelque chose qui vient de Dieu, et c'est quelque chose qui peut être les deux éléments communs aux deux spiritualités, et qu'en réalité, effectivement, on a besoin de ces deux dimensions pour se réaliser.
Je pense à cette phrase, vous avez évoqué Avraham Yoshua Heschel, et vous écrivez dans votre article que Avraham Yoshua Heschel dit « Le corps sans l'esprit est un cadavre, l'esprit sans le corps est un fantôme. » Est-ce que ça va dans le sens de ce que vous venez de développer?
Mais écoutez, ça va tout à fait dans ce sens. Je vais prolonger l'image. Je crois que la halakha, ce qu'on appelle la discipline des commandements, est un élément constitutif du judaïsme. Ce que les chrétiens ont beaucoup de mal à comprendre, la discipline des commandements et des mitzvot, le Shabbat, la kashrout et tout ce qui s'y rattache. Et pour moi, ça constitue l'ossature du judaïsme, c'est l'épine dorsale du judaïsme. Et c'est comme un être humain, s'il n'a pas de squelette, eh bien, il se liquéfie, il ne peut pas se redresser. Mais d'un autre côté, si on fait du réductionnisme et on dit le judaïsme, c'est la halakha, c'est ça qui est l'essentiel, le reste n'est que fioriture, eh bien, imaginez ce que c'est que représenter un homme uniquement par son squelette. Eh bien, on a un spectre hideux. Hein. On a dégarni l'homme de toute son humanité. On voit bien qu'il y a ici une espèce de composante complète qui doit être prise en compte. Et bien évidemment, on a en tête la vision d'Ézéchiel des ossements desséchés. Il ne faut pas que le peuple juif ressemble à des ossements desséchés. N'oublions pas l'ossature, mais ne réduisons pas le judaïsme à cela.
Alors sur cette très belle image des ossements d'Ézéchiel qui se ressuscitent, de ces squelettes qui se relèvent, nous terminons cette émission, trop courte bien évidemment pour des notions si complexes. Je vous remercie infiniment, Rabbin Rivon Krigier, d'avoir pris le temps et la patience de nous expliquer ces éléments de théologie complexe, si on peut dire. Mais surtout, ce qui est important, qui m'a semblé encore important, c'est de nous permettre de continuer à penser la relation entre judaïsme et christianisme. C'était talmudique. Une émission de Marc-Anna Wachnin et Françoise-Anne Ménager, chargée d'émission Anne-Catherine Lechard, aujourd'hui à la technique, Philippe Palares. Réalisation, Dany Journaud. Bon dimanche à tous.